Eh bien voilà, déjà le troisième jour de ces rencontres des cinémas d'Europe. Quatrième jour, que dis-je ? Troisième jour pour la radio, mais quatrième jour pour les rencontres des cinémas d'Europe à Aubenas. Aubenas, Vals, Lussas, mais aussi Tueil. Plusieurs salles, plusieurs lieux pour suivre l'actualité du cinéma européen. Aujourd'hui, dans le cadre de ce nouveau journal des rencontres, eh bien René, tu vas accueillir Sylvie Verhaedde pour son film Stella est amoureuse. À toi, René.
En effet, alors bienvenue.
Bonjour, bienvenue, merci.
Ce film est donc une suite du film Stella que vous aviez réalisé en 2008, si je ne me trompe.
C'est ça.
J'aimerais bien que vous disiez ce qui vous a motivé pour faire cette suite, fort réussie d'ailleurs.
Alors, donc c'est une suite, mais puisqu'on suit la même petite fille qui s'appelle Stella, qui a 11 ans dans le premier, et là, elle est dans celui-là, elle est en terminale, et elle passe le bac. Mmh. Mais on n'est pas obligé d'avoir vu le premier pour voir le deuxième. Et ce qui m'a motivée, en fait, l'histoire du premier, c'est une petite fille qui venait d'un milieu très populaire, qui a grandi dans un café, et qui rentrait dans un lycée parisien, et qui découvrait la culture, le monde, un nouveau monde qui s'ouvrait à elle. Et là, Stella est amoureuse, elle est en terminale, elle pense qu'elle s'est intégrée, elle a rattrapé sa culture, elle a des copines d'un bon milieu, etc. Et en même temps, son milieu la rattrape, et au même moment, ses parents divorcent, et elle découvre les boîtes de nuit, ce qui fait beaucoup pour une année de bac. Voilà, donc ça c'est l'histoire de Stella est amoureuse. Et ce qui m'a motivée, c'est de prendre un peu le pouls de la jeunesse d'aujourd'hui, qui entre le Covid, le climat, etc., a des perspectives d'avenir un peu floues et un peu angoissantes. Et c'est une génération qui a le monde à réparer. Et moi, dans mon cas, c'est là, c'est un peu autobiographique. J'avais une place à trouver parce que la place que m'avaient assignée mes parents, ben, j'en voulais pas vraiment. Et j'avais pas non plus la place de mes copines. Et je trouve que les adolescents aujourd'hui, comme ils ont le monde à réparer, ils ont une place à se faire, en fait. Et que je trouvais que c'était bien. Enfin, ça me motivait. Enfin, j'avais envie de parler de faire le lien entre ces deux générations.
Oui, donc vous dites dimension autobiographique. Donc, vous vous identifiez avec ces jeunes femmes?
Oui,
c'est-à-dire leurs problèmes et les vôtres, ceux que vous aviez quand vous aviez leur âge, ne sont pas très différents.
Non, en fait, il y a quelque chose qui est éternel, c'est l'adolescence. Mmh. Donc, et avec ce film, en fait, j'ai essayé d'être vraiment dans la tête d'une jeune fille de 17 ans. C'est-à-dire pas en surplomb comme une adulte, en me disant, ah voilà comment pensent les ados, mais vraiment être dans sa tête. Et pour ça, j'ai écrit avec mon fils.
On y reviendra.
Ouais. Voilà, donc ce qui fait que voilà, il a un regard, bon voilà, sur le monde d'aujourd'hui. Et voilà, donc c'est assez intemporel, en fait, l'adolescence, c'est l'adolescence, quoi.
Bien sûr. Alors, puisqu'au fond, Stella, c'est quelqu'un qui se cherche, qui cherche à se connaître pour s'orienter dans la vie. Il y a une vraie dimension philosophique, là, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à la fin, elle a trouvé sa voie ?
Pas vraiment, mais ça se précise, mais surtout, elle a passé des épreuves, c'est-à-dire qu'elle a eu son bac. Je spoil. En fait, elle a passé des épreuves. C'est-à-dire qu'elle a pu s'interroger sur qui elle était et ce qu'elle voulait vraiment. C'est-à-dire qu'elle a, très tôt, elle a su qu'elle voulait pas être serveuse, comme l'a préparé ses parents. Et elle s'est identifiée à ses copines, elle a pris leur manière de parler. Mais en fait, à l'adolescence, à 17 ans, elle se dit que c'est pas vraiment non plus elle, ce qu'elle est vraiment. Et donc, c'est le moment qu'elle choisit pour s'interroger sur ce qu'elle veut, elle vraiment, et quelle est sa place. C'est aussi l'histoire d'une émancipation féminine.
Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que vous faites bien jouer au baccalauréat le rôle qui est devenu le sien. Ce n'est pas un examen difficile à réussir, mais c'est un rite de passage.
C'est complètement un rite de passage, oui. Et ça l'était encore plus à mon époque, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu plus... Enfin, la période de flottement sur... en fait, on... Quand on est enfin ado et plus jeune, voilà, on est sur des rails, c'est l'école, et puis hop, il y a le bac, et après il y a un énorme gouffre. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Et j'ai l'impression que pour les générations d'aujourd'hui, c'est après le bac. Moi, c'était moi, ce gouffre-là, je l'ai entrevu pendant l'année du bac.
Pendant l'année du bac. Ouais. Voilà. Alors, je reviens sur que vous avez abordé ça déjà, mais j'aimerais creuser un peu. Visiblement, c'est ce que dit le générique et ce que vous venez de confirmer. Vous avez travaillé à quatre mains. Il était donc important pour vous d'avoir un complément de point de vue, le point de vue de quelqu'un d'autre sur, sur cette époque ?
Non, sur l'époque, c'est comme c'est un film autobiographique, en fait l'époque je l'avais en tête,
oui,
complètement.
C'était la vôtre, oui.
C'est la mienne, voilà, les événements, les péripéties, la dramaturgie, je l'avais. Donc ce que j'avais envie, c'est vraiment être collée à l'énergie de quelqu'un de plus près de ses 17 ans, mon fils il avait 24 ans, voilà, donc de retrouver cette énergie, d'être sûre de retrouver l'énergie de cette jeunesse-là en fait, voilà. Pour être vraiment dans la tête d'une ado et pas une adulte qui se dit comment on pense.
Ouais.
Voilà.
Et peut-être il y a aussi une question de langage.
Complètement.
Parce que les ados ne parlent pas comme nous.
Oui, mais en même temps, par exemple, pour toutes les jeunes filles, enfin le groupe de copines, etc., et les ados qui jouent dans mon film, je leur répétais pas que c'était un film d'époque. C'est-à-dire que voilà, l'époque était marquée par la musique, les vêtements, les voitures, etc. Mais pour elles, le décor. Mais pour elles, c'était pas dans un film d'époque parce qu'en fait, toutes les thématiques, en fait, c'est des choses qu'elles étaient en train de vivre. Il y en a qui sont tombées amoureuses sur le tournage. Enfin voilà, il y a toutes les thématiques de l'adolescence. Mmh. Et la seule chose qu'elles n'avaient pas le droit, c'est de rajouter des mots d'aujourd'hui. Genre frère, gros, tout ça, là. Donc, ça, elles n'avaient pas le droit. Donc ça, vous avez raison, c'est important le langage.
Voilà. Mais l'authenticité.
L'authenticité langage. Du langage adolescent.
Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Alors justement, c'est ce qui me... Il y a quelque chose là qui est très intéressant. Est-ce que par rapport à ça, à cette histoire de maintenir une authenticité linguistique, est-ce que vous avez été très directive avec elle ou est-ce que en même temps, il y a une place à l'improvisation, c'est compliqué.
Oui, il n'y a pas vraiment de place à l'improvisation au niveau du dialogue. Mais en fait, c'est plutôt... Le thème du film, c'est un film qu'on pourrait plutôt se dire c'est un premier ou un deuxième film, le moment où on aborde voilà, une sorte d'autobiographie sur l'adolescence. Et comme ce n'est pas ni mon premier ni mon deuxième film, en fait, l'expérience fait que j'ai après laissé beaucoup de liberté à mes comédiens, sans me dire que, que je ne suis pas une vraie réalisatrice. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on commence, on se dit, voilà, je suis réalisatrice, donc on est un peu directive. Et là, c'était plus leur laisser... Enfin, le fait qu'elles oublient les caméras, qu'elles se sentent bien. Donc, ça passe pas par l'improvisation au niveau des mots, mais plus des placements, une sorte de liberté, et le fait qu'elles se sentent bien sur le tournage.
Et donc, est-ce que ça a impliqué de nombreuses de scènes à répéter de nombreuses fois ou...
Pas vraiment. En fait, et puis en plus, j'ai tourné avec deux caméras.
Oui.
Donc, ce qui laisse pas mal de souplesse. C'est-à-dire que les champs contre champs pour des jeunes acteurs, c'est compliqué parce que les placements, etc., d'être raccord, c'est pas quelque chose qu'elles ont en tête. Mais quand on a deux caméras, on peut saisir un instant et au montage, on peut monter. Ouais.
Alors justement, vous parlez de travailler avec deux caméras. Filmer une scène dans un film, dans une boîte de nuit, passe encore, mais là, il y en a quatre ou cinq. Mm-hmm. C'est un lieu resserré. Mm-hmm. J'imagine, surtout que ici déroule un spectacle, d'une certaine façon. Et donc, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez travaillé malgré la contrainte de l'espace.
En fait, cette contrainte m'a amené à réfléchir.
Et oui.
C'est-à-dire que
c'est un défi.
C'est un défi, voilà. Et bon, alors après, comme c'est un peu autobiographique, moi j'ai beaucoup aimé les boîtes de nuit et j'aime beaucoup la danse. Donc pour moi, c'était vraiment un challenge de transmettre cet amour de la danse et de cette énergie qu'on peut trouver dans une boîte de nuit. Et pour cela, en fait, c'est un lieu de liberté, c'est un théâtre. En fait, où il y a les coulisses, où on se met en scène, etc. Donc c'est déjà un rapport à l'art. Et donc j'avais envie de transmettre tout ça. Donc il y a quatre ou cinq boîtes de nuit dans le film, évidemment qui font avancer l'histoire. C'est pas juste des boîtes de nuit pour montrer des boîtes de nuit. Et avec mon chef op, on a pensé à chaque boîte de nuit a une couleur différente en fonction de ce qui se passe dans le film. Donc déjà on a varié au niveau des couleurs. Ensuite c'est pas filmé de la même manière. Ensuite j'ai tourné justement avec deux caméras mais aussi avec un steadicam.
À l'épaule.
Alors une caméra à l'épaule et un stead. Donc le stead c'est un appareillage qui permet de faire des plans très fluides et très léchés et qui normalement on répète beaucoup pour avoir un vrai mouvement. Donc j'ai essayé d'allier ça, c'est-à-dire des vrais mouvements de caméra et la liberté que procure une caméra à l'épaule. Après j'ai bénéficié d'un truc super, c'est que comme j'ai tourné pendant le deuxième confinement, donc évidemment j'ai testé le matin, etc., tous les figurants. Mais c'était des gens qui aimaient beaucoup danser, etc., qui n'avaient pas dansé depuis un an.
Ah oui. Donc c'était la fête.
C'était la fête. Donc c'était la fête et il y avait une énergie de dingue. Mm-hmm. Et donc, Et donc, j'ai vraiment profité de ça. C'est-à-dire
pour dynamiser le film.
Voilà, pour être vraiment dans une vraie boîte de nuit avec tout ce que ça procure comme joie, comme énergie, etc. Voilà.
Alors, justement, parlez-nous un peu du... Il me semble que ces scènes de boîte ont un rôle structurant dans le film. Mm-mm. Elles le font évoluer.
Oui, complètement, puisque, en fait... avec les boîtes de nuit, en fait, elle découvre un peu quels sont ses atouts à elle. Et donc, elle découvre que, comme elle a grandi dans un café, en fait, il y a des liens entre le café et la boîte de nuit. C'est-à-dire que c'est un théâtre. C'est-à-dire quand des patrons d'un café rentrent en scène derrière le bar, il y a des clients, il y a un auditoire. Donc, c'est des choses qu'elle connaît. Elle est aussi un peu avertie sur les dangers de la boîte de nuit, parce qu'une jeune fille de 17 ans en boîte de nuit, c'est pas non plus super. Mais comme elle a grandi dans un café très populaire, elle est pas fascinée, enfin, elle sait ce que c'est l'alcool, elle sait ce que c'est l'alcool triste, elle a déjà vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir à son âge. Donc elle est avertie, en fait. Et surtout, elle est pas fascinée, ouais, ni par la drogue, ni par l'alcool, etc. Ouais. Puisqu'elle sait, enfin, vous voyez, souvent, les jeunes filles, on leur interdit de sortir, et puis, à la première sortie, c'est...
Précision. Il me semble quelqu'un essaie de lui filer de la drogue à un moment, et elle la refuse.
Oui, elle l'a refusé, elle ne boit pas d'alcool, elle le dit dès le départ. Donc elle, ce qu'elle veut voir, c'est que le côté festif. Évidemment qu'à l'époque, dans cette boîte de nuit, il y avait de la drogue, et plus tard, en fait, c'est une parenthèse enchantée, mais plus tard, il y aura le sida, l'héroïne, etc. Donc il n'y a pas que le côté... Voilà, moi je montre le côté positif de la boîte, parce que pour elle, c'est une ouverture, et c'est vraiment une passerelle pour l'art, en fait. Elle danser, c'est créatif, voilà, elle se crée un personnage, et aussi, c'est son éducation sentimentale.
Oui. Et puis, c'est peut-être aussi, alors ça, c'est pas évident, peut-être aussi un monde où les gens sont davantage eux-mêmes, ils se libèrent.
À la fois, ils se libèrent, ils peuvent s'inventer un personnage aussi, et c'est aussi un espace de liberté, exactement. Et aussi, à cette époque-là, je suis pas nostalgique, mais il y a eu une parenthèse à Paris qui s'appelait les Bains-Douches, où c'était une boîte où, en fait, tous les milieux sociaux se croisaient. Et aussi pour rentrer, en fait, il fallait avoir un look, mais un look pas créé par Gucci, Chanel, etc. Un look qu'on se faisait aux puces, donc il y avait pas un truc d'argent, en fait. Donc si on était bien habillé, on pouvait rentrer, mais il fallait pas avoir beaucoup d'argent pour rentrer. Et alors qu'aujourd'hui, après ça, les boîtes sont un peu structurées par clan, en fait, maintenant, aujourd'hui.
Type séparation des classes.
Et séparation des classes, et puis il y a les boîtes gays, les boîtes lesbiennes, les boîtes rap, les boîtes rock, etc.
Trans, tout ce qu'on veut.
Exactement, alors qu'à l'époque, tout était mélangé, en fait. Et c'est ça aussi qu'elle trouve, aussi, c'est tout d'un coup un espèce de brassage culturel, où il n'y a pas d'un côté... ce qu'elle a connu, c'est-à-dire la riche, elle était la pauvre dans une école de riches, et là tout d'un coup c'est beaucoup plus, c'est autre chose. Quoi.
Oui, voilà. Alors il y a quelque chose qui doit être très compliqué pour un cinéaste d'aujourd'hui, c'est de mettre en valeur les différences de classe dans un monde où les gens s'habillent tous de la même façon. Au 19e siècle, un pauvre ne s'habillait pas comme un bourgeois. Aujourd'hui, tout le monde porte des jeans. Alors évidemment, si on regarde de près, c'est pas les mêmes jeans, mais...
Non, c'est pas les mêmes jeans.
Mais quand même.
C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais très bien faire, je sais très bien situer socialement qui sont
mais
les
c'est
gens.
Un vrai travail, si vous voulez le faire passer dans un film.
Oui, c'est un vrai travail. Moi, je m'occupe, par exemple, les costumes, la moitié des fringues, c'est mes fringues.
Oui.
Enfin, c'est mes vêtements, parce que... Flavie est à peu près la même taille que moi, les filles aussi. Ouais. Donc il y a plein de fripes que j'ai gardées ou que j'ai encore, etc. Et sociologiquement, moi je sais assez bien. Et justement, en France par exemple, dans le cinéma, c'est plus flou que par exemple dans les pays anglo-saxons. Ouais. C'est très marqué, en fait.
Plus marqué qu'en France.
Plus marqué.
En Angleterre
France.
En particulier, en ça je le sais d'expérience. Mmh. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Alors, le personnage de Céla, effectivement. Elle est très souvent silencieuse. Elle observe plus qu'elle ne s'exprime avec des mots.
Mmh. Oui, en fait, le fait qu'elle soit un peu transfuge de classe, on va dire, donc elle est un peu à côté, elle est toujours un peu à côté. C'est-à-dire, au café, elle a toujours été une petite fille dans un monde d'adultes, donc c'est un poste d'observation. Au lycée, elle est la pauvre dans un monde de riches. Ben voilà, donc ce qui fait que... et puis dans son milieu, on lui a pas appris les mots. Enfin, on s'exprime pas avec des mots. Enfin, on s'exprime avec très peu de mots. Et donc, ce qui fait que, en fait, j'ai utilisé une voix off pour pour amener voilà, comment elle pense, elle, mais c'est vrai qu'elle ne l'exprime pas, en fait. Et justement, la danse est importante pour elle, parce qu'elle s'exprime par son corps, en fait.
Voilà. Tout à fait. Oui, oui, il était... oui, parce que la faire parler trop, ça forcerait tout, parce que ça voudrait dire qu'elle a déjà trouvé.
Exactement.
Et oui.
Oui, exactement.
C'est évident.
Oui, et surtout, elle est vraiment un peu en décalage. Donc, quand on est en décalage, on se retrouve souvent en observation, quoi.
D'accord. Alors, la boîte de nuit. Une dernière question là-dessus, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Bon, effectivement, ça concerne beaucoup Stella, mais il me semble que là, dans la boîte de nuit, c'est le groupe jeune qui est en scène et qui est au centre de votre préoccupation. C'est les jeunes. C'est les jeunes, là.
Oui,
les danseurs, ceux qui regardent, ceux qui dansent, ceux qui ne dansent pas, tout ça.
Voilà, c'est un monde à part, où évidemment, c'est un monde où il y a des habitués, ils se retrouvent, et puis surtout, ils se mettent en scène, en fait. Le fait de danser, tout le monde se met en scène sa manière de s'habiller, se crée un personnage. C'était un endroit très créatif. Et j'avais envie de transmettre cette énergie-là, en fait. Voilà.
Voilà, c'est un problème d'énergie. Mmh. Alors, parlez-nous, puisque pour en finir avec la boîte de nuit, parlez-nous un peu du choix que vous avez fait en ce qui concerne la musique, qui est très riche, effectivement, et ça s'imposait.
Voilà. Alors, la musique, comme vous savez, ça coûte très cher au cinéma. Il faut payer les droits.
Alors, justement, est-ce que ça coûte plus cher de choisir des chansons qui sont déjà connues ou de se payer les services d'un compositeur ?
Alors là, je me suis payé les services d'un compositeur pour tout ce qui est la musique de film. Donc, il y a la voix intime de Stella, des personnages. Donc là, il y avait un compositeur. Et puis, pour recréer l'époque et la boîte de nuit, évidemment, j'ai pris des musiques existantes et ça coûte très cher. Ça coûte beaucoup plus cher la musique existante qu'un compositeur.
D'accord.
C'est ce qui coûte le plus cher. Et en plus, c'est un peu une loterie. Parce que ça dépend des ayants droit, des maisons de disques. Enfin, c'est très compliqué et ça coûte très cher. Donc, il a fallu y penser en amont. Enfin, ça a été un gros travail d'obtenir les droits de musique que je voulais et de créer un équilibre entre celles qui coûtent très cher, celles qui coûtent pas cher. Enfin, voilà. Et aussi, ce que je voulais, c'est qu'il y ait un panel assez large. C'est-à-dire que dans le film, il y a à la fois de la musique noire, de la musique blanche, de la variété... de la musique branchée. Enfin voilà, je voulais un panel assez large et pas de musique au second degré.
Mais vous n'aviez pas le choix. Enfin, vous étiez obligé d'apprendre des chansons connues parce que
boîte de nuit, c'est comme ça. Ouais, oui, voilà, ouais. C'est ça.
Mais en plus, c'est quelque chose de très important pour les jeunes. C'est une. Il me semble.
Ah, bien évidemment. En fait, la musique, c'est un marqueur. Voilà, ça rallie à une tribu, à un clan. C'est très important.
Et à leur âge. Oui. Oui, tout à fait. Alors, au niveau des acteurs. On a Marina Foïs, qui est une actrice chevronnée, et qui est d'ailleurs excellente, dans son rôle de mère un peu dépassée par les événements. On a Benjamin Biolay, qui est un musicien, donc un homme de scène, et aussi un acteur. Alors comment s'est passé le tournage avec d'un côté ces deux acteurs expérimentés, et des filles qui, j'imagine, pour la plupart, ne sont pas professionnelles ?
Non. Alors, en fait, Benjamin, j'avais déjà tourné plusieurs fois avec lui. Voilà, c'est moi qui l'avais commencé au cinéma. On a fait un téléfilm ensemble il y a très longtemps qui s'appelait Sans froid. Donc avec Benjamin, on a une vraie connivence. C'était la quatrième fois qu'on tournait ensemble. Et puis on a à la fois une connivence et aussi une connivence de milieu. C'est-à-dire que lui, ça l'amusait beaucoup de jouer le personnage du père. Parce que je crois que dans sa famille, il y a des tontons un peu comme ça.
Ouais.
Voilà, donc ça nous faisait rire. Marina s'est glissée dans l'univers. Parce que au-delà du fait que c'est une suite, etc., il y a aussi le fait que, comme moi, je travaille avec une équipe qui me suit, donc ma première assistante, seconde assistante, etc. Donc il y avait et que Benjamin les connaît. En fait, elle aurait pu se sentir un peu à côté. Et en fait, elle s'est complètement, elle s'est glissée dans l'univers et c'était super.
Alors.
Ouais. Et voilà. Oui, et ensuite les petites filles, les jeunes filles, c'était un mélange de comédiennes qui avaient déjà joué soit dans des courts-métrages, soit dans des séries sur le net, et des filles qui n'avaient jamais joué.
Alors, parlez-nous un peu justement au niveau de l'écriture. Donc en amont, comment est-ce que vous avez conçu les rapports, ce rapport mère-fille ?
Comment je l'ai conçu ?
Oui.
Comme c'est un peu autobiographique, j'ai pas été chercher très loin.
Vous avez vécu un peu ça ?
Un peu. Et non, ce qui m'intéressait, c'est qu'une fois que j'ai choisi Flavie pour le rôle principal, j'ai tout de suite pensé à Marina, parce que je trouve qu'elles ont un truc en commun qui est, au-delà du fait que Marina vient d'un milieu qui n'est pas du tout le milieu dans lequel la mère Ouais. Et elle a quelque chose de très combative. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui combat, en fait. Elle est travailleuse, elle s'affirme. Et surtout, elle, même on le voit par ses choix au cinéma, elle est curieuse, elle a de l'audace, etc. Et elle a de l'humour. Et donc, je trouvais qu'avec Flavie, il y avait un truc qui fonctionnait très bien, et même dans la vie. Et donc, ça ne s'est pas démenti. C'est-à-dire que sur le tournage, elles se sont très bien entendues.
Alors, il y a quelque chose qu'on aurait pu imaginer, mais vous avez fait un autre choix, qui est les clashs entre la mère et la fille. Or, il n'y en a pas.
Non, parce qu'en fait, elles sont chacune un peu dans leur propre problème. Et qu'elles essayent de se démerder comme elles peuvent. Donc la mère essaye de faire que le père est parti en laissant des dettes, il n'y a plus de café, enfin c'est la Bérésina. Et la fille essaie tant bien que mal d'avoir son bac, de ne pas sombrer, de pas. Enfin voilà, donc elles sont toutes les deux, elles se retrouvent à la fin.
Elles se retrouvent à la fin, sans se perdre vraiment non plus tout au long du film. Mm-mm. Alors. Si j'ai bien compris, le tournage s'est opéré pendant le Covid. Mmh. À mon avis, c'est quelque chose d'énorme. Comment est-ce que vous avez pu gérer ça ?
Alors, c'est compliqué parce que, en fait, tous les lieux, oui, tous les lieux, surtout quand on pense tourner en boîte de nuit,
ouais.
C'est un peu compliqué, c'est vraiment le milieu confiné, voilà, en hurlant, enfin, tout ça. Donc, il y avait on se testait tous les matins, voilà. Et moi, pendant toute la durée du tournage, j'ai mangé toute seule à la cantine.
Ah oui.
Oui. Parce que, en fait, enfin, si moi j'avais le Covid, en fait, le tournage s'arrêtait.
Oui.
Les lieux de rencontre, c'était vraiment principalement la cantine, en fait. On enlève son masque, on mange. Donc, je mangeais toute seule. J'étais punie.
Mais c'était une formidable opportunité pour ces jeunes et même pour les professionnels de travailler à une époque où il ne devait pas se passer grand-chose sur les plateaux.
Exactement. En fait, au-delà des contraintes, bon, il y a aussi la contrainte que normalement un film, ça se fait pendant le tournage, mais aussi en dehors du plateau. C'est-à-dire qu'on tourne la journée et puis le soir, on va boire un pot et on parle, etc. Donc ça, on ne pouvait pas.
Et ce qui fait avancer le film
exactement,
aussi.
Exactement, évidemment.
Puis recadrer les choses.
Voilà, et puis même des choses qui se créent, etc. Donc on était un peu dans un hôtel où on n'avait pas le droit, enfin, on ne pouvait pas manger au restaurant, enfin bon, et plein de contraintes. Mais en même temps, on était tous vraiment très chanceux. On savait qu'on était chanceux de travailler, en fait. De travailler et de faire des choses pendant que les gens étaient quand même confinés en couvre-feu à 18h.
Ouais. Voilà quoi. Et d'ailleurs, les deux acteurs professionnels le disent dans un film fait par la télévision locale, parce que j'ai découvert, à ma stupéfaction, que certaines scènes ont été tournées à Périgueux. Or, ça ne se voit pas du tout.
Non, en fait, j'ai tourné les intérieurs à Périgueux. Et puis, en fait, le Périgueux, c'est parce que voilà, j'ai eu l'aide de la région Aquitaine. Donc, une des contraintes, c'est de tourner en région. Et donc, j'ai décidé de faire les intérieurs à Périgueux. Et le bar aussi est dans la région Périgueux. Oui, ça a été compliqué à trouver en repérage.
Ouais.
Trouver un café qui ressemble un peu à un café parisien.
Ça, c'est compliqué.
Et je l'ai trouvé, ouais.
Là, je veux dire, j'aurais pas risqué de deviner. Hein.
Et en plus, je suis quand même assez spécialiste des cafés. Grandi dans un café.
Donc, vous connaissez un peu.
Bah oui, donc je tenais
mais
à ce que ça soit.
Mais vous connaissez les cafés parisiens.
Exactement. D'accord. Donc, j'ai trouvé la Perle Rare, un café un peu plus loin que Bergerac. Enfin bon, bref. J'ai cherché, hein. C'était compliqué. C'était le lieu le plus compliqué à trouver, mais on l'a trouvé.
Vous l'avez trouvé. Il n'y a pas de scène de rue de.
Si. Quelques scènes de deux ou trois.
Ouais. Là aussi,
mais en même temps, c'était pas mal parce que comme c'est censé se passer dans les années 84, en fait, il y avait justement des rues aux alentours de Périgueux qui étaient restées
petit côté
désuet, exactement,
qui tombait bien
pour les vitrines de magasins ou des choses comme ça qui tombaient très bien.
Ouais, d'accord. Alors.
Et puis aussi, par exemple, j'ai tourné aux Halles.
Au Hall de Paris, donc.
Voilà, enfin dans les Halles à Paris, où normalement c'est un quartier qui est bondé jour et nuit. Et comme c'était le confinement, il n'y avait personne. Donc il y avait des avantages.
Alors, une question qui. Bon, vous avez d'une certaine façon répondu, mais elle me tient à cœur, donc je vous la pose quand même. Ce film n'est pas seulement un film sur une adolescente qui se cherche, c'est aussi, et peut-être surtout, un regard sur la jeunesse d'aujourd'hui, même si ça se passe en 1980, on se rend bien compte que ce qui vous intéresse, c'est les jeunes d'aujourd'hui.
Oui, bah c'est le moment important où il y a tout l'avenir devant soi, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait pas ce qu'on va devenir, voilà, que tout le monde a traversé. Et voilà, si on est plus ou moins dans un long fleuve tranquille, ça passe plus ou moins bien. Mais quand c'est un peu chaotique, c'est d'autant plus une angoisse qui, moi, m'est restée. Et cette angoisse, en fait, je la sens là beaucoup chez les adolescents, surtout après le confinement. C'est-à-dire qu'autour de moi, il y a plein d'ados en déprime. J'ai une copine qui a fait une enquête, enfin qui a commandé un sondage. Oui. Et il y a vraiment beaucoup de troubles psychiatriques chez les ados, etc., dû au Covid, en fait. Il y a eu une sorte de décrochage.
Ça n'a pas arrangé les choses.
Non, voilà, ça a accéléré le décrochage, l'angoisse climatique. Enfin, voilà. Et donc, je me dis qu'ils sont dans une situation où il faut qu'ils trouvent leur place. C'est pas facile, mais il faut y aller, quoi.
Alors, moi, là où je voulais en venir, c'est qu'il me semble que vous donnez une image de la jeunesse en tant que groupe, hein, parce que c'est important quand même, ce groupe jeune. C'est pas que une fille qui a des problèmes.
Bien sûr, ouais.
C'est un groupe de jeunes. Ce qui m'a beaucoup frappé et beaucoup plu, c'est que la solidarité entre eux, alors qu'en fait, elle n'est pas du tout du même milieu social, est plus forte que les différences de classe.
Oui. C'est la force de l'amitié.
Ouais.
Exactement.
Alors ça rend un peu nostalgique parce que, hélas, je crains que ce ne soit plus la même chose quand on vieillit.
Oui, c'est la beauté de la jeunesse.
C'est la beauté de la jeunesse. Oui. Parce que Stella est entourée d'amis qui ne sont pas du même milieu qu'elle, mais qui la protègent même.
Oui, qui la protègent. Et à la fois, il y a quand même un gouffre entre ses préoccupations et elle. Oui. Donc c'est un équilibre qui se crée, c'est qu'à la fois elle l'aide, ouais, sûrement, mais en même temps on sent bien qu'il y a cette distance, en fait. Ses copines, voilà, elles sont pas assez mûres, pas assez grandes, pour comprendre quels sont ses problèmes. Stella n'en parle pas. Enfin voilà, la faille entre elles est quand même marquée, mais au-delà de ça, elle l'aide.
Mais il y a aussi le fait que elles le sont carrément dans la réussite. Alors, scolaire.
Oui, c'est ça. Elles sont d'un bon milieu parisien. Elles vont faire Cannes, Hippocane, Normale Sup. Voilà.
Ah oui, tout à fait. Mais elles n'ont pas un regard de mépris du tout.
Absolument pas, non.
Voilà, d'accord. Alors, je voulais vous demander, c'est aussi, finalement, ce film, le portrait d'une fille qui se cherche, le portrait d'un groupe de jeunes, aujourd'hui en France, confrontés aux problèmes qu'on connaît. Et c'est aussi un film sur la solitude, quand même.
Oui, ben, c'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, enfin, cet âge précis où le rail de l'école, etc., où tout d'un coup on doit prendre ses décisions, en fait, ça met tout le monde face à soi-même. C'est vraiment une époque, je crois, de solitude. C'est-à-dire que je pense que tous les ados écoutent un peu ce que veulent leurs parents, un peu ce que font leurs copains, enfin le groupe, etc. Parce que le groupe est très important à cette époque-là. Mais en même temps, c'est des choix. C'est la première fois qu'on fait des choix où on sent que c'est crucial et qui vont impacter sur l'avenir, en fait. Avant, je pense que plus ou moins, on suit une sorte de chemin tracé avec plus ou moins de difficultés, redoublement par redoublement. On est orienté par orienté, mais l'école est encore là. Et quand il n'y a plus l'école, et que tout d'un coup, c'est le monde, alors rentrer dans le monde, c'est quand même une source d'angoisse. Et en fait, on est un peu seul face à ça parce que c'est sa vie à soi, en fait.
On aimerait bien savoir ce qui va devenir de Stella quand elle va à la fac.
Ouais.
Voilà. Alors, pour finir, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos projets maintenant que le film est fait? J'imagine que vous avez la tête ailleurs, en quelque sorte.
Oui. En fait, juste avant ce film-là, j'ai fait un film qui s'appelle Madame Claude, qui est sorti sur Netflix, sur une plateforme.
Je l'ai vu.
Voilà. Et voilà. Donc, sinon, c'est pour dire que la période en ce moment est un peu... Enfin, compliqué. Pas compliqué, mais voilà, c'est en plein changement. Donc, on me propose...
Trouver des financements
Non, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois que, évidemment, avec le Covid, etc., voilà, le cinéma s'interroge sur il y a moins d'entrées, les gens qui n'y allaient n'y vont plus comme avant, etc. Donc, on sent un bouleversement. Et puis, il y a l'arrivée des plateformes qui changent aussi un peu la donne. Donc, on est dans une période de bouleversement. Voilà.
Ouais.
Donc, moi, on m'a proposé des séries. Donc, je suis en train, mais ça prend du temps. Et puis, sinon, j'écris un autre film. Voilà.
Si on vous propose des séries, c'est en tant que metteur en scène ou en tant que scénariste en même temps?
Les deux.
Oui, vous tenez à avoir...
Oui, c'est-à-dire que j'ai âprement lutté pour avoir quand même un statut d'auteur.
Voilà, bien voilà. Sûr. Oui, ça paraît évident.
Voilà, donc même si on m'engage sur des plateformes, c'est quand même avec un statut d'auteur.
Est-ce que vous diriez que la jeunesse, l'enfance, la jeunesse sont pour vous, vous avez fait ces deux films, un sujet de prédilection ou pas particulièrement?
En fait, ce qui me
motive.
C'est ça que si je pense à moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est les livres que j'ai lus ado et c'est les films que j'ai vus ado. En fait, comme une réponse à qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie, comment on peut s'en sortir dans la vie. C'est-à-dire que moi, j'ai eu vraiment des réponses dans les livres ou dans les films. Et donc, je pense que inconsciemment, je dois avoir envie de...
De mettre en scène ces réponses ?
Non, de pouvoir donner quelque part des réponses à mon petit niveau, à d'autres ados.
Vos réponses à vous.
Ou des pistes à des ados, en fait. Mm-hmm. Voilà. Enfin, je sais que les films qu'on a vus ados nous marquent à vie.
Donnez-nous quelques exemples de
films. Non, mais chacun, je pense que tout le monde...
Pour vous.
Moi, c'est plus les livres.
Les livres
Bizarrement, oui. Oui. C'est vraiment Balzac, ça m'a vraiment marqué.
Oui.
Donc c'était déjà le feuilleton.
Oui.
C'était des séries, en fait.
Oui.
Il y a eu Balzac, il y a eu Duras, il y a eu Céline. Enfin, moi, c'est vraiment les auteurs. Et après, il y a des films, il y a Scorsese qui m'a beaucoup marqué. Voilà.
C'est pas un mauvais exemple.
Non.
Bien, ben écoutez, moi je suis ravi de que vous ayez fait l'honneur de venir à ce micro. Mm-hmm. J'encourage vivement ceux qui nous écoutent à aller voir ce film qui est plein de vie, plein de. On voit bien passer l'inquiétude de cette jeunesse et de cette Stella, cette jeune fille qui effectivement essaie de trouver sa voie. La trouve-t-elle ?
Oui. Oui,
voilà,
elle va finir par la trouver.
On finira donc sur une note positive. Merci beaucoup.
Merci.